Bonjour Margot.
Bonjour Annie et bonjour à toutes et tous. Ce soir sera terrifiant ou ne sera pas. Alors me revoilà à ce micro pour évoquer avec vous un film à partir de quelques extraits. Et donc nous partons à la rencontre de fantômes dans un mystérieux manoir hanté perdu dans la campagne anglaise.
Je suppose que c'est un clin d'œil à cette belle fête de Halloween.
Absolument. Donc je vais vous parler maintenant du film du réalisateur britannique Jack Clayton, Les Innocents, qui date de 1961. Il s'inscrit dans la grande tradition des films d'horreur anglais, en noir et blanc, qui ont fait florès dans les années 1950 et 60. Grande maison vide, porte qui claque, parquet grinçant, couloir sombre faiblement éclairé à la chandelle, et bougie dans la flamme et soudain soufflée par un courant d'air inexpliqué. Vous voyez le topo. Pourtant, comme l'explique le critique et cinéaste Nicolas Saada dans un des excellents bonus de l'édition vidéo, le film de Jack Clayton est bien plus complexe que ça.
Les Innocents empruntent à l'horreur, mais il convoque en même temps des thématiques très dérangeantes sur la cohabitation des morts et des vivants, et la manière dont les morts viennent toujours perturber la vie des vivants.
Programme alléchant, n'est-ce pas ?
Effectivement, mais de quoi parle le film ?
L'intrigue est simple en apparence. Miss Giddens est recrutée pour devenir la gouvernante de deux enfants, Flora et Miles. Ils sont orphelins et habitent un beau manoir gothique loin de Londres où séjournent leur oncle et tuteur. C'est lui qui charge Miss Giddens de s'occuper d'eux. Il faut vous imaginer une femme d'une quarantaine d'années, fille de pasteur, qui porte la vertu et le sérieux dans son regard. Bref, on est assez loin de Mary Poppins. Le film s'ouvre sur l'entretien d'embauche avec l'étonnante question de l'oncle.
Avez-vous de l'imagination ?
Suite à quoi, Miss Giddens est embauchée et elle part retrouver des enfants à la campagne. Je vous propose d'écouter dès maintenant un premier extrait des Innocents lorsque la calèche de Miss Giddens la dépose devant les grilles de la propriété. Dans sa robe à crinoline, Miss Giddens traverse le parc du manoir et longe un étang recouvert de nénuphars. Au loin, on distingue une rotonde au bord de l'eau. Les lieux sont enchanteurs et l'image suit les pas de la gouvernante. La caméra passe lentement derrière le tronc d'un arbre proche du chemin, comme pour donner l'impression, un peu inquiétante, que quelqu'un, ou tout simplement nous, spectateurs, observons en cachette sa déambulation. La musique laisse la place à quelques sons de la nature. Bruissement d'oiseaux et coassement de batraciens. La caméra suit la gouvernante de loin, inscrivant sa silhouette dans le cadre luxuriant et naturel. La gouvernante continue sa marche, levant les yeux vers les arbres. Le visage de Miss Giddens se contracte légèrement. Elle arrive en vue de la rotonde isolée, la dominant depuis le sentier. Et à nouveau, elle entend. Miss Giddens se retourne et observe, le visage anxieux, l'étendue d'eau qui mène au manoir. Baissant les yeux, elle voit enfin le reflet d'une petite fille en robe blanche.
Didn't you hear? Someone is calling your name.
Tu as entendu?
No,
quelqu'un t'appelle.
I didn't kill anyone.
Non, je n'ai rien entendu. Tu ne t'appelles pas Flora?
Alors c'est la formidable comédienne Deborah Kerr qui interprète Miss Giddens, la gouvernante. Sa composition est fascinante, tant elle parvient, en quelques subtils mouvements du visage, à faire sentir le malaise, l'inquiétude ou l'étonnement de son personnage. Et dès ce premier extrait, le spectateur est associé à sa surprise. Lui aussi a entendu le mystérieux appel, presque susurré, alors que la jeune Flora assure, elle, n'avoir rien entendu. Cette contradiction de perception, récurrente dans le film, se retrouve dans la composition visuelle de la scène. Sur l'image en scope, c'est-à-dire très aplatie, Miss Giddens est tout à gauche et Flora tout à droite. Cette séparation visuelle est matérialisée par le bras de l'étang qui passe entre les deux personnages, chacun demeurant sur une rive face à face. Écoutons à présent un nouvel extrait des Innocents. Il fait nuit. Après ses prières, Flora s'est couchée dans la même chambre que sa gouvernante. Devant les fenêtres ouvertes, les voilages s'agitent dans le vent. La lumière diffuse de la lune éclaire la chambre. La caméra s'approche du lit de Flora. À travers les voiles du baldaquin surgit la silhouette de la fillette. Réveillée, elle se lève sans bruit de son lit, le contourne et s'approche de celui de sa gouvernante endormie. Elle s'appuie sur le pilastre du pied du lit et la contemple silencieusement. La fillette sourit doucement. La gouvernante a le sommeil agité. Le sourire de Flora s'agrandit, malicieusement suspect. Elle quitte le lit de Miss Giddens et s'approche des fenêtres ouvertes. Elle repousse les voilages et baisse le regard vers l'extérieur. En contrebas, un cercle de sculptures de pierre blanche éclairé par la lune. Des feuillages remuent dans le vent. La fillette commence à fredonner. Elle parcourt des yeux le jardin, semblant chercher quelque chose. Son regard s'arrête et un léger sourire se dessine sur son visage. Qu'a-t-elle vu ? À l'image, le corps endormi de Miss Giddens laisse progressivement la place au jardin du manoir, avec ses statues énigmatiques. Est-ce un rêve ou simplement une ellipse temporelle ? Dès son arrivée, Miss Giddens apprend qu'elle remplace la précédente gouvernante, très proche de Flora, et disparue tragiquement. Si le manoir est censé n'héberger que quelques personnes, la gouvernante, une cuisinière, les deux enfants et deux autres domestiques, Miss Giddens ressent rapidement d'autres présences inexpliquées. Avant d'écouter un nouvel extrait, j'aimerais revenir sur le scénario des Innocents. Celui-ci est adapté d'un livre de Henry James. Le critique et réalisateur Nicolas Saada revient sur cette adaptation signée par Truman Capote.
Dans le roman, l'histoire est racontée par des gens. Truman Capote renonce à passer par ce filtre-là. La narration dans le film est plus directe. Elle est aussi complètement cinématographique, parce que Capote a réussi à trouver des équivalences très visuelles et très poétiques au roman.
Le fondu enchaîné entre deux séquences, ou la musique délicatement entêtante, en sont des exemples. Mais il y en a bien d'autres. Écoutons à présent un nouvel extrait. Nous sommes en plein jour. Le noir et blanc de l'image est très contrasté. Miss Giddens cueille au sécateur des roses blanches éblouissantes. La comptine fredonnée par Flora hante la gouvernante, comme pour annoncer une nouvelle manifestation étrange. Le visage de Miss Giddens se crispe. Elle écarte le rosier, se penche et découvre derrière les fleurs une statue abîmée d'un bambin souriant. De ses lèvres sort soudain un coléoptère noir, hideux. Le visage de la gouvernante exprime sa surprise, son dégoût. Elle se redresse soudain. Le temps semble s'arrêter. La musique s'est tue. Ce silence étrange devient oppressant pour la gouvernante. Elle tourne et retourne son visage, comme si elle se débattait contre une force invisible. Elle écarquille les yeux, puis les relève lentement vers le ciel. Au-dessus d'elle, se détachant dans la brume, la tour gothique du manoir. Une silhouette masculine se tient sur le rempart, comme pour observer le parc. Miss Giddens est éblouie par la lumière. Des tourterelles volent autour de l'homme de la tour. L'inquiétude gagne la gouvernante. Elle en laisse tomber ses ciseaux dans un petit bassin. Elle se dirige vers la tour, freinée par une porte en fer forgé qui la sépare temporairement de ce mystère. Les yeux toujours levés, elle traverse le jardin en direction de la tour. À mesure qu'elle s'approche, les tourterelles blanches sont de plus en plus nombreuses. Levant à nouveau les yeux vers la tour, elle s'aperçoit que la silhouette a disparu. Troublée, Miss Giddens fait le tour de la terrasse du manoir. La caméra la suit le long des fenêtres closes, jusqu'à une porte-fenêtre entr'ouverte. À l'affût d'un bruit ou d'une présence suspecte, la gouvernante s'arrête. Puis elle reprend son inspection et découvre une porte en retrait de la terrasse, cachée par des buissons et plantes grimpantes luxuriants. Elle pénètre dans une pièce poussiéreuse. Cette pièce est de dimension carrée, bordée par un escalier qu'elle emprunte. Levant les yeux, Miss Giddens contemple le labyrinthe de l'escalier, métaphore très visuelle de l'intrigue du film. Elle débouche en haut de la tour. À genoux, Miles caresse ses tourterelles blanches.
Miles, how long have you been here?
Depuis quand es-tu là, Miles?
À son tour, le frère va nier avoir vu l'homme de la tour. Il met plutôt en garde sa gouvernante contre son imagination. À l'image, on le voit pourtant sourire largement. La réussite de cette scène, qui n'est pas sans évoquer le comte de Barbe Bleue avec sa haute tour, tient à ce qu'elle provoque l'inquiétude même en plein jour, et continue d'instiller le doute chez le spectateur. Cette ambiguïté naît de cette vision énigmatique, de l'éclairage éblouissant et presque surnaturel, et des effets très subtils sur la bande-son, qui mêle musique inquiétante, mélodie dorénavant suspecte, et bruitages naturels qui en deviennent effrayants. Le scénario du film multiplie ces séquences qui tiraillent la réalité. L'organisation d'un faux anniversaire, de nombreuses discussions ambivalentes.
Ce qui s'est passé l'autre soir, oubliez-le. Faites comme si vous aviez rêvé.
Ou bien...
Faites comme si de rien n'était, pour ne pas se faire d'idées. Mais parfois, on ne peut s'empêcher d'imaginer des choses.
Et puis il y a les apparitions, de plus en plus nombreuses, de fantômes menaçants, auxquels seule Miss Giddens semble être sensible. Tout se passe comme si, à divers degrés, le réel s'effondrait pour faire place à un entre-deux énigmatique. Et comme le note Nicolas Saada,
« Jack Layton travaille le fantastique comme l'irruption de quelque chose qui dérange le quotidien. C'est le thème majeur des innocents. »
Ainsi, l'horreur repose sur la suggestion, et donc la possibilité pour le spectateur de croire à certaines choses et de douter d'autres. La beauté vénéneuse et fascinante du film de Jack Layton, c'est de cultiver l'ambiguïté des personnages, adultes et enfants, et de tailler régulièrement une nouvelle face sur le diamant noir de l'intrigue. Est-ce une histoire de fantômes, ou bien les fantasmes d'une bigote? Ou bien une mente religieuse pervertie dans son sens du devoir, au point de vouloir dévorer les enfants dont elle a la responsabilité? Quelle est la part d'ironie du titre? Flora et Miles sont-ils uniquement d'innocentes victimes d'un monde d'adultes pervertis? Ou incarne-t-il une forme de monstruosité de l'enfance? La force du film, c'est bien sûr de laisser chaque spectateur en décider.
We lay my love and I beneath a weeping willow, but now alone I lie and weep.
On se quitte en écoutant la mélodie du film, qui donne un peu la chair de poule avec cette voix enfantine presque d'outre-tombe.
By the tree that weeps with me, singing away, away, till my lover returns to me.
Les Innocents, un film réalisé par Jack Layton, est sorti en salle en avril 1962.
Le film est disponible en version restaurée dans une très belle édition DVD et Blu-ray qui propose des bonus passionnants. Je vous recommande notamment l'entretien avec le réalisateur Nicolas Saada, dont nous avons cité plusieurs extraits ce soir. Éditeur Potemkin.